Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30.
Avec Céline Landreau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans RTL Midi en ce jeudi 11 juillet. Libération pour les uns, défaite de l'humanité pour les autres. Vincent Lambert s'est éteint ce matin à 8h24 au CHU de Reims. Ce patient en état végétatif depuis plus de 10 ans incarnait, malgré lui, le débat sur la fin de vie. La réaction dans ce journal de son neveu, François Lambert, qui s'est battu pour le laisser partir. Après les dîners fastueux, les travaux dans son logement de fonction et le logement HLM de sa directrice de cabinet, Mediapart a fait de nouvelles révélations. Les affaires se multiplient autour de François de Rugy. Des salariés à bout et un comité central d'entreprise sous haute tension ce matin chez Conforama. Et puis le Tour de France, direction la planche des belles filles. Aujourd'hui, les Vosges devraient permettre aux leaders de s'expliquer une première fois. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Plus de nuages cet après-midi.
Oui, avec une petite perturbation très atténuée qui circule sur la moitié nord du pays, qui a donné quelques pluies mais vraiment très faibles ce matin sur le nord-ouest. Elle donnera quelques averses, cette perturbation, cet après-midi sur un petit quart nord-est avec une toute petite tendance orageuse près des frontières du nord. Retour d'un franc soleil par les côtes de la Manche et puis partout ailleurs, c'est un temps sec et toujours ensoleillé. Très ensoleillé dans le sud avec des températures de saison, chaleur estivale sans excès cet après-midi, jusqu'à 35 degrés à Nîmes, 30 degrés à Orléans et Toulon, 29 à Paris et Nice, 25 à La Rochelle, 23 degrés à Brest et Strasbourg et 21 degrés de minimum au Havre.
Merci Patricia. La question du jour sur RTL.fr, l'affaire Vincent Lambert vous a-t-elle fait réfléchir sur la fin de vie? Vous dites oui à 67%, non à 27%. Vos appels évidemment au 3210, vos réactions sur Facebook et sur Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Céline, vous l'avez dit, il était 8h24 ce matin quand Vincent Lambert est mort et nous allons consacrer une grande partie, sinon toute l'émission, à cette actualité avec vous au 3210. Je rappelle que seuls 13% des plus de 50 ans ont rédigé des directives anticipées. Est-ce votre cas? Pour toutes vos réactions, on est ensemble entre 13h et 14h.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
C'est l'épilogue d'une affaire hors norme, celle d'un homme devenu malgré lui le symbole du débat sur la fin de vie. Vincent Lambert, tétraplégique, en état végétatif depuis presque 11 ans et un accident de la route, est mort ce matin au CHU de Reims. Une issue inévitable depuis l'arrêt des traitements en milieu de semaine dernière. Bonjour Mourad Djabari.
Bonjour.
Vous êtes au CHU de Reims pour RTL où Vincent Lambert s'est donc éteint en début de matinée.
Oui, effectivement, l'attente insoutenable pour les familles est terminée. Vincent Lambert s'est éteint à 8h24 précisément dans sa chambre au quatrième étage du CHU de Reims. Après 8 jours d'arrêt des traitements, ici à l'hôpital pour le moment, on n'a pas croisé des membres de la famille. Impossible de vous dire s'ils sont à l'intérieur aux côtés de Vincent Lambert. Mais dès hier soir, sa mère Viviane, son épouse Rachel, ses frères et sœurs sont venus à plusieurs reprises aux cheveux des Vincent pour l'accompagner dans ses dernières heures. Cette famille déchirée a veillé en permanence Vincent Lambert pendant plus d'une semaine sans jamais se croiser, se voir. Ils se sont recueillis dans des chambres voisines pour ne pas se rencontrer. Par ailleurs, selon l'avocat de la femme de Vincent Lambert, une autopsie a été demandée par le procureur de la République de Reims. Rachel Lambert devait être auditionnée. Cela fait suite à la plainte déposée par les parents la semaine dernière pour homicide volontaire. Le docteur Sanchez avait été entendu par la police judiciaire le week-end dernier dans le cadre de cette enquête. La mort de Vincent Lambert ne met pas fin aux batailles judiciaires entre cette famille qui se déchire depuis des années.
Mourad Djabari, Reims pour RTL. Et avec nous maintenant en ligne, le neveu de Vincent Lambert, François, bonjour.
Bonjour.
Merci d'abord d'être avec nous en ligne sur RTL. Tout d'abord, on a envie de vous demander dans quel état d'esprit vous êtes quelques heures après l'annonce du décès de votre oncle.
Je suis très serein en fait. Ça a été un soulagement, moi, son annonce. Ça a pas été, je pensais qu'il y aurait de la tristesse avec, mais les choses se remettent à leur place. Et enfin, Vincent a pu partir et enfin, on a pu le respecter. Et enfin, sa souffrance s'est arrêtée, surtout que dans les derniers jours, sa souffrance était évidemment plus importante puisque l'arrêt des traitements fait que le corps réagit et lutte pour vivre en sachant qu'il ne peut pas lutter.
Vous l'aviez vu quand, vous, pour la dernière fois?
Je l'ai vu mardi, dans la nuit de lundi à mardi. Puis je lui ai dit adieu mardi matin quand je suis parti. J'ai passé la nuit avec lui.
Est-ce que vous avez eu son épouse, Rachel, depuis l'annonce du décès? Vous avez pu communiquer avec elle?
Non, j'ai pas communiqué avec elle et je sais qu'aux horaires à l'heure à laquelle il est mort, c'est-à-dire à 8h24, c'est des horaires où il y a personne normalement. C'est-à-dire que Rachel a dû passer la nuit avec lui jusqu'à 7h du matin. Elle est partie et ensuite il y avait un créneau horaire à 9h, je pense, pour les parents de Vincent et que donc, comme il est mort à 8h24, il devait y avoir personne quand il est décédé. Donc j'ai. J'ai pas de nouvelles de Rachel. Je pense qu'elle est, chez elle. Et voilà. Enfin, c'est bien aussi que de la laisser tranquille pendant ce temps-là, parce que ça doit être assez difficile pour elle aussi, je pense, quelque part.
Les traitements, on le sait, ont été interrompus mercredi dernier. Il a donc fallu plus d'une semaine pour que cette attente dont vous parliez s'arrête. Vous aviez évoqué sur RTL il y a quelques jours un protocole sadique sur la manière dont la fin de vie de Vincent se déroulait, c'était vos mots. Est-ce qu'aujourd'hui vous lancez un appel aux responsables politiques, au gouvernement pour modifier ce protocole ?
Bah, il n'y a pas que le protocole, hein. Il y a beaucoup de choses juridiquement à faire pour faire en sorte qu'une loi sur la fin de vie fonctionne. Ce protocole-là, effectivement, moi, il me semble extrêmement... Alors, j'allais dire barbare encore, mais il faut que je me méfie, parce que sadique, moi, je l'ai employé plein de fois, mais je pense que vraiment que sur la fin de vie, il y a un problème de sadisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils imposent aux autres quelque chose qu'ils ne voudraient pas pour eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et pour moi, c'était du sadisme, effectivement, ce maintien en vie pendant 6 ans, et c'était... Mais voilà, c'est quelque chose, effectivement, je pense que le législateur devrait réfléchir.
Vincent s'est donc éteint ce matin, vous le disiez, à 8h24. C'est une fin que vous attendiez. Est-ce que vous aviez déjà évoqué la suite avec sa famille? Est-ce que vous savez notamment où Vincent reposera?
Non, je pense que j'espère que ça restera en famille. J'espère que ça restera de l'ordre de l'intime et sans que la presse ne soit alertée. En tout cas, je sais qu'elle ne sera pas alertée par moi. Voilà, mais après, la suite, c'est pas... Enfin, moi, quand j'ai vu Rachel, j'en ai parlé lundi, mais elle voulait pas vraiment parler parce que c'était hors de propos, puisque Vincent était en train de mourir. Voilà, je peux pas vous dire sur ça. J'espère que l'affaire Vincent Lambert... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, l'affaire Vincent Lambert se termine aujourd'hui. Étaler des différences sur le lieu d'obsèques de Vincent, je pense que ce serait... on toucherait vraiment le fond. J'espère que ça ne se fera pas.
Merci beaucoup François Lambert d'avoir été avec nous quelques minutes. Je rappelle que vous êtes le neveu de Vincent Lambert. Merci donc d'avoir réagi sur l'antenne de RTL. Réaction du Vatican il y a quelques minutes. Vatican qui fait part de sa douleur et qui qualifie ce décès de défaite pour notre humanité. Elle aurait pu allonger la sordide liste des femmes tuées sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. À Nice, une mère de famille battue a été sauvée par sa petite fille de 7 ans et demi. L'enfant, Mickaël Lefebvre, a eu la présence d'esprit de téléphoner aux forces de l'ordre.
Oui, les faits se sont déroulés le 6 juin dernier dans un appartement du centre-ville de Nice. Ce matin-là, à 6h, José, 39 ans, pénètre dans la chambre de son ex-compagne et l'arrache brutalement du lit. Il la frappe ensuite à la tête avec la crosse d'un pistolet 7.65. Alors qu'elle gît dans une mare de sang et voyant sa dernière heure arriver, la victime implore son bourreau de lui laisser dire un dernier adieu à ses deux petites filles, âgées de 3 et 7 ans. L'homme fait alors venir les enfants et c'est à ce moment-là que la mère glisse un téléphone dans les sous-vêtements de sa fille aînée. La petite va alors composer le 17 pour alerter la police. C'est sa tante, sentant qu'un drame pouvait arriver, qui avait appris à l'enfant à composer les numéros d'urgence quelques jours auparavant. Un geste qui a certainement sauvé la vie de cette mère de famille. L'agresseur a immédiatement été interpellé et placé en détention. Jugé hier par le tribunal correctionnel de Nice, il a été condamné à 30 mois de prison, dont un an avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve, avec l'obligation de se soigner et l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne. Traumatisée, la mère ne veut plus vivre dans l'appartement familial. Elle est hébergée par une association.
Mickaël Lefebvre à Nice pour RTL. On marque une pause dans RTL Midi et dans un instant, les ennuis qui s'accumulent pour François de Rugy. Il conserve pour l'instant, en tout cas, la confiance du président et du premier ministre, mais les affaires s'accumulent autour de François de Rugy. Après avoir révélé ses dîners fastueux organisés par le couple, lorsque le ministre de la Transition écologique était président de l'Assemblée nationale, Mediapart l'a mis en cause dans 2 autres dossiers, Benjamin Sportouche.
Oui, d'abord au rayon immobilier avec la rénovation de son appartement de fonction au ministère de l'écologie où il est arrivé au mois de septembre. Facture 63 000 euros, notamment un dressing sur mesure de plus de 16 000 euros. Alors François de Rugy s'est une nouvelle fois défendu en invoquant la vétusté des lieux et le choix des meilleurs de vie.
L'autre affaire concerne Benjamin, sa directrice de cabinet.
Oui, Nicole Klein, Mediapart toujours, révèle que cette ancienne préfète disposait d'un logement HLM à Paris, logement qu'elle n'a pas occupé pendant 12 ans entre 2006 et 2018. Nicole Klein reconnaît avoir agi par facilité et négligence. Elle a été limogée hier soir par François de Rugy. Alors le ministre de l'écologie n'est pas directement responsable dans cette affaire, mais elle vient s'ajouter aux polémiques sur son train de vie personnel.
Et se pose du coup la question de son maintien au gouvernement.
Vous l'avez dit tout à l'heure, officiellement, il a le soutien de l'exécutif. C'est un bon ministre, dit encore ce matin Matignon, mais de nombreux cadres de la majorité jugent en coulisses que ce n'est pas tenable. Ça ne peut que se terminer par une démission, me confie un conseiller ministériel haut placé. Mais si on suit la jurisprudence Macron, explique un député En Marche, ça risque de prendre un peu de temps. Allusion ironique, bien sûr, à l'affaire Benalla et la réaction très, trop lente du chef de l'État il y a tout juste un an.
Benjamin Sportouche du service politique de RTL. François de Rugy, en déplacement dans les Deux-Sèvres aujourd'hui, a réagi il y a quelques minutes à ces nouvelles accusations.
Je suis évidemment très attentif à ce que toutes les explications soient données et que si avec des personnalités extérieures, comme la déontologue de l'Assemblée par exemple, mais ça peut être d'autres formules, il y avait des vérifications à faire, je suis tout prêt à m'y livrer. Et s'il y avait eu des erreurs d'appréciation de ma part, je serais tout prêt également à les corriger. C'est normal, ce sont les comptes que l'on doit rendre aux Français. Personnellement, je m'y suis toujours conformé.
François de Rugy au micro RTL de Jean-Marc Terrier. 15 parlementaires, 7 députés, 8 sénateurs sont quant à eux soupçonnés de détournement de fonds publics. Selon les informations du journal Le Monde, l'ancien patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, fait partie de cette liste visée par une enquête préliminaire du parquet national financier pour l'usage de ses indemnités de frais de mandat. Il les aurait utilisées pour des dépenses interdites. Comité central d'entreprise extrêmement tendu. Ce matin, chez Conforama, la direction et les syndicats se retrouvaient pour la première fois depuis l'annonce du plan social. C'était dans un hôtel de Torcy en Seine-et-Marne. Conforama va supprimer 1900 postes et fermer 32 magasins en France. Des annonces qui devaient être détaillées ce matin, Arnaud Touche, mais la réunion n'a pas vraiment pu se tenir.
Oui, malgré plusieurs vigiles devant la salle de réunion, des salariés font pression devant la porte, des coups sont échangés. Très en colère et pour beaucoup avec un gilet de la CGT sur le dos, ils pénètrent dans la salle. Et le directeur est interpellé par des employés à bout de nerfs.
C'est ça la réalité, monsieur, c'est pas des chiffres.
J'ai arrêté mes études, j'ai commencé à Conforama, j'ai tout donné à Conforama.
Vivez avec ça.
À la porte, ben voilà, on apprend par la télé qu'on va perdre notre travail.
La honte pour vous.
On a des enfants, on a des crédits, on va devenir quoi demain?
Vous devez vivre avec, monsieur.
Qu'est-ce que vous allez nous proposer?
Le directeur a du mal à répondre face à cette colère.
Je viens d'arriver, je n'ai rien planté, je suis là pour sauver Conforama.
Non, pas rien planté.
Le dialogue est finalement impossible. L'homme en costume cravate part de la salle sous les huées et sous bonne escorte. La réunion est désormais suspendue jusqu'à nouvel ordre.
À Torcy. Pour RTL, la direction de Conforama condamne fermement les violences et menaces verbales inacceptables qui sont venues entacher le processus de dialogue et se réserve le droit de donner des suites judiciaires à cette intrusion. Le sport est l'heure de la première grande explication sur le Tour. Les coureurs vont s'élancer de Mulhouse dans trois quarts d'heure maintenant, direction la planche des Belles Filles avec un final qui s'annonce très ardu. Le Tour, c'est aussi RTL chez vous. Rendez-vous dans quelques minutes avec Christophe Paco. Pascal Pro, lui, vous allez le retrouver au dialogue, évidemment, au 32-10 dans quelques minutes. Pascal, vous avez écouté le journal, qu'est-ce qui vous a frappé?
Mais ce qui, évidemment, on va revenir beaucoup sur l'affaire Vincent Lambert, et peut-être qu'on va en parler durant toute l'émission. Michel Houellebecq, qui est un intellectuel, qui est un penseur de notre société, un des écrivains les plus fameux, a fait une tribune ce matin qu'a publié Le Monde. Tribune qu'il avait sans doute écrite avant la mort de Vincent Lambert, mais qui était faite pour être publiée juste après la mort de Vincent Lambert. Et il dit l'État a tué Vincent Lambert. C'est ce qu'il dit. Donc, ce débat est intéressant. On l'aura dans une heure avec des réactions souvent très, très... Durant une heure avec des réactions très contrastées.
Et à propos de l'affaire Vincent Lambert, pardon, je vous coupe, Pascal, les parents de Vincent Lambert dénoncent eux aussi à l'instant par communiqué un crime d'État.
Donc, vous pourrez donner votre avis. On en a énormément parlé sur l'antenne d'RTL ces dernières semaines. Et ce sera peut-être une des dernières fois où nous allons en parler aussi longuement.
Merci, à tout à l'heure. Avant ça, sur RTL, vous retrouvez Christophe Paco dans un instant. C'est RTL chez vous.